RMC.
After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Bernard Gengini et de Gonzalo Bergessio, bienvenue dans le podcast After Saint-Étienne. Comme toutes les semaines, 15 minutes de débat consacré à l'actu des Verts. Avec aujourd'hui Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut. Bonsoir à tous.
Et avec Joss Randall qui est de retour du site peuplevert.fr bien sûr. Salut Joss.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Kevin, salut tout le monde.
Salut. Bon.
C'est un moment qu'on n'avait pas eu Joss là, t'étais parti où, dans le Far West?
Je me morfondais en fait.
Bon, bah,
j'attendais que ma colère redescende et en fait elle redescend pas. Donc,
on va en parler.
Donc,
on va faire une petite évaluation. Enfin, on va tenter de faire une évaluation après la défaite face à Nantes. Et puis, de débats à suivre, évidemment, on va parler du huis clos. Est-ce que ce huis clos a tout gâché hier, aussi sur le terrain, après tout, hein, on peut se poser la question. Et puis, la dynamique du moment, quand même, qui est très négative. Est-ce que, à Saint-Étienne, l'Europe est encore possible? On va en débattre tout de suite dans le podcast After Saint-Étienne. Est-il possible de déterminer un taulier après avoir perdu 2-0 à la maison face à Nantes?
Moi, honnêtement, Gilbert, j'en vois pas. J'en vois pas parce que le football, ça reste un sport collectif. Et quand tu vois un tel naufrage au niveau de cette équipe de l'AS Saint-Etienne, franchement, je n'ai pas envie de sortir un joueur qui aurait ne serait-ce que sorti la tête de l'eau.
Joss, t'es d'accord?
Ouais, je suis d'accord.
Pour une fois, on veut dire que t'es au match. Hein, donc, bon.
Extrêmement moyenne au niveau de la prestation globale. Je vais juste, moi, mettre un petit billet quand même sur Arnaud Nordin. Ça fera plaisir à mon copain Raphaël Brouillard. Parce que j'en ai un peu marre, en fait. C'est l'éternel espoir qui sortira à mon sens jamais.
Ah oui, donc là, c'est ton boulet, en l'occurrence.
Oui, c'est mon boulet, oui.
Très bien. Vas-y, enchaîne.
Oui, parce que des tauliers, j'en ai pas beaucoup, hein, pour rien de cacher. Et voilà, je pense que ce joueur est un faux bon joueur qui court le nez dans la pelouse, qui a un QI foot peu développé, et je pense que ça sera jamais un très bon joueur, voilà. Et ça me rend un peu triste.
Ouais, bah, moi c'est, ça va pas être exactement le même billet d'humeur, mais moi c'est un joueur que j'ai tellement apprécié par tout ce qu'il a dégagé, par son état d'esprit, et donc suspense, mais c'est quand même Johan Cabaye qui me déçoit quand même beaucoup, même si je suis indulgent parce que, et voilà, il a pas beaucoup joué, il revient petit à petit, mais c'est un joueur vraiment, je pensais qu'il allait apporter plus dans ce groupe avec cet entraîneur qui est Puel, et pour l'instant vraiment on a vraiment du mal à voir la plus-value qu'apporte l'ancien international français dans cette équipe des Verts.
Non, mais il commence à y avoir sérieusement avec entre guillemets les vieux.
Ouais.
C'est-à-dire Cabaye, on voit que ça marche pas. Debuchy, bon bah là, il était sur le banc. Loïc Perrin, problème à gérer. Enfin, je veux dire, il y a souci.
Le problème, Gilbert, c'est que est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il y a un souci avec les vieux, il y a un souci avec les jeunes, il y a un souci avec les très jeunes, il y a un souci avec, tu vois ce que je veux dire, il y a un souci dans la direction, il y a un souci avec les supporters. Non mais tu vois ce que je veux dire. Non mais je veux dire, il y a tellement de soucis à tous les niveaux que, mais c'est vrai en effet que quand tu vois les joueurs d'expérience qui sont arrivés pour apporter justement ce petit supplément d'âme, pour l'instant on est obligé de dire que ça marche pas.
Vous pensez que Debuchy va continuer sur le banc, ou c'était juste là un petit coup, une tentative de Puel, et qu'il va revenir?
Moi je pense, après moi je pense qu'il va revenir, parce que il n'y a pas mieux que Debuchy. Alors certes il a plus ses jambes de 20 ans, maintenant ça reste quand même un joueur qui arrive à faire des bonnes prestations, parce que mine de rien il a la grinta, et ça sert toujours quand on est défenseur.
Ouais, je rajoute, ça méritera, si on a deux minutes à la fin, de d'élargir un peu le débat sur l'héritage Gassé. Ça va faire grincer des dents, ça. Mais là, on vient d'aborder un truc qui est important et qui va plus loin qu'uniquement les vieux. On pourrait parler d'explosion de la masse salariale qui handicape le club. On pourrait parler de management de type Gassé qui a créé une ambiance particulière à Saint-Etienne dont les mecs ont du mal à sortir. Il y a une vraie réflexion qui commence à se faire jour parmi pas mal de suiveurs. C'est encore un petit peu embryonnaire parce que Gassé reste une espèce de dieu vivant pour beaucoup à Saint-Etienne, mais moi un jour j'aimerais qu'on en parle, parce que je pense que son héritage il n'est pas que positif. Voilà.
Ah non, attends, c'est intéressant. Je ne sais pas si Kevin t'as un avis là-dessus. Puel par exemple, on peut lui, comment dire, le créditer de ce qu'il a fait à Leicester, parce que quand il est parti, l'équipe qu'il a mis en place a ensuite gagné des matchs. On voit ce que ça donne, ils sont bien dans le championnat anglais, mais peut-être qu'effectivement il peut y avoir des effets négatifs après le départ d'un coach.
Bah, j'ai un mot qui me vient à l'esprit, alors je ne sais pas si c'est exactement le bon, mais il y a, avec le type de management de Gasset, Vous me direz si vous êtes d'accord, mais il y a une, il y a un système de calinothérapie où il est vraiment, tu vois, où tout
c'est
le monde
là où
est
en
tête.
En fait.
Voilà, où tout le monde est. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de confiance à ses joueurs, qui leur donne pas mal d'affection justement, mais peut-être un peu trop, parce qu'on a vu qu'avec un entraîneur comme Printemps qui a tenté le même style de management, mais qui avait peut-être, sans lui manquer de respect, un peu moins de compétences footballistiques ou pas. En tout cas, la connexion s'est pas aussi bien faite avec cet entraîneur-là. Et là, par contre, arrive un gars comme Puel qui, lui, est quand même un gars qui a du caractère. La calinothérapie, ça n'a pas l'air d'être vraiment son truc. Lui, ce qu'il veut, c'est des résultats. Et on a l'impression que les joueurs ont quand même du mal à tu vois, c'est comme une voiture. Elle a été habituée à rouler à 120. Et quand tu as un entraîneur qui arrive et qui leur demande d'aller à 180, et bah, les pneus, ils crissent un peu, quoi.
En fait, j'aurais juste ajouté deux choses. Alors, c'est, j'ai eu une discussion avec un copain qui s'appelle Jupra42, très intéressant, qui me disait qu'il avait lu des témoignages de gens qui ont bossé avec Gasset, des joueurs. Et en fait, le modèle est toujours un peu le même. En tout cas, le Gasset numéro 1. Je ne parle pas du Gasset adjoint. Mais en fait, ce mec-là génère une telle affection de la part des joueurs que les mecs sont capables de faire des efforts sur une, peut-être pas une longue durée, mais de faire des efforts. Et ça a donné la belle saison qu'on a vue. Mais c'est pas gratuit, ça. C'est en échange d'un management très paternaliste où très probablement, on fait beaucoup moins d'efforts au quotidien. C'est un peu donnant-donnant, quoi. Résultat, généralement, il y a un déficit foncier qui s'installe, qu'on paye dans l'année N+1 et l'année N+2. Et je crois qu'on est un peu là-dedans. Et le deuxième effet problématique, c'est que pour sauver le club, il faut bien reconnaître qu'il l'a sauvé quand même. Hein, il a imposé à cette direction de faire des choix de joueurs aguerris, mais qu'il a fallu, pour les faire venir, la masse salariale a explosé en janvier 2018 à la SS1, a pris quelque chose comme 40%. Et aujourd'hui, on traîne ça. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils tombent plus dans cette dynamique-là. Et par contre, ils sont toujours là, ils sont nombreux. Ça pèse sur la masse salariale, ça limite les marges de manœuvre pour faire des ajustements. C'est pour ça que je disais que cette saison-là, à mon sens, elle est sacrifiée.
Ouais. Alors, attends, juste quand même,
parce qu'on est entre deux modèles.
Permettez-moi, mais la calinothérapie avec des mecs d'expérience, justement, type Perrin, Mvilla, Debuchy, bah, c'est les types qui ont de la bouteille. Ils devraient pas être dupes de tout ça, ils devraient pouvoir passer au-dessus.
Oui, mais un joueur, regarde.
Un gosse de 18 ans, je veux bien.
Mais non, mais eux, c'est ce qu'ils veulent. Moi, à la fin de ma carrière, Gilbert, j'avais pas envie d'un entraîneur qui me tapait dessus au moindre match raté, à la moindre passe ratée, tu vois. T'as envie d'un entraîneur qui comprend que le football, à un certain âge, et bah, c'est plus le week-end que la semaine. Donc, comme il a dit, les entraînements sont un peu tranquilles. Hein. Du moment qu'on est bon le week-end, ça suffit. Mais c'est vrai que ça marche sur 6, sur 12 mois, mais une fois que tu dois vraiment enchaîner les saisons les unes après les autres, et ben quand tu t'entraînes à moitié, parce que justement on te demande d'être bon le week-end, mais le week-end ça suffit pas tout le temps, surtout quand il y a deux matchs par semaine avec la Coupe d'Europe, etc.
Allez, on enchaîne, on débat tout de suite. On continue le débat, puisque le débat ne s'arrête jamais dans le podcast After Saint-Etienne. Mais là, il faut quand même qu'on évoque ce huis clos. Alors, ça fait beaucoup réagir hein, dans l'After, de nombreux supporters des Verts qui gueulent, hein, qui disent bah, « Attendez, c'est quand même un scandale ce qui nous arrive, il y en a marre des ultras qui prennent en otage le club. » C'est la tonalité un peu générale hein, de l'After ces derniers jours, si vous avez écouté, puisqu'on voit nous sur nos réseaux sociaux. Est-ce que le huis clos de ce week-end a gâché une partie de la performance sportive ? Je veux dire, est-ce que ça a joué ou pas sur le résultat, mais comment vous l'avez ressenti ?
Moi, franchement, Gilbert, moi, j'ai jamais joué un match à huis clos. Voilà. En tout cas, ni au niveau professionnel, ni en jeune. Bon, je veux dire, pour moi, c'est horrible. Quand tu es footballeur de haut niveau, peu importe le sport d'ailleurs, de jouer sans public et en plus parce que c'est une sanction, c'est vraiment odieux et c'est pas contre les supporters. On n'est pas vraiment placé pour savoir, on n'est pas là pour jeter la pierre à tel ou tel, mais franchement, footballistiquement sur le terrain, ça ressemble à rien lorsque tu es joueur ou même lorsque tu regardes le match à la télé.
Et ça avantage clairement l'adversaire. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Jost, ton avis ?
Alors, mon avis, j'en ai deux. Le premier, c'est qu'évidemment, c'est dégueulasse de jouer un match à huis clos. Tout le monde s'en plaint. Et surtout, je pense que la SS 2019-2020 n'a pas une marge de manœuvre suffisante sur 16 ou 17 autres clubs, je veux dire de supériorité suffisante, pour pouvoir se permettre de se passer de ce petit plus que peut être le public. Après, j'avais peur... Ou ce gros plus, oui. Après, j'avais peur... que tout le monde se retranche derrière ça, au niveau des joueurs, au niveau de Puel, pour expliquer la déroute contre Nantes. Et parce que moi, je crois que Alors, footballistiquement, personne ne sait s'ils auraient proposé autre chose avec un stade plein. Mais toujours est-il que c'est, ça aurait quand même pas suffi, parce que on s'est quand même fait marcher dessus. Enfin, voilà. Donc j'aurais pas non plus que ça devienne un peu l'excuse à tout, une excuse supplémentaire pour dire ah bah ouais, mais là on n'avait pas notre public, donc on a perdu. Je pense qu'on a perdu parce qu'on était moins bon.
Plus largement,
évidemment que c'est dommageable. C'est dommageable. Déjà, ouais. Moi j'aurais bien aimé assister au match, mais je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et puis vivre mais le foot comme ça, dans une ambiance de cimetière, c'est tout sauf le foot, quoi. Voilà.
Plus largement sur ce clivage dont parlait Gilbert entre les ultras, on va dire les jeunes. Alors je sais pas si c'est une tranche d'âge vraiment jeune, mais on va dire les ultras, on va dire vraiment radicaux. Et le supporter vert qui, lui, veut jouer son équipe et qui en a marre un peu des débordements, peu importe s'il y a un problème avec la direction. Et comment c'est vécu, ça, dans le club ?
Bah, pas très bien. Aujourd'hui, ça représente une... Alors, pas une minorité, ça représente quand même pas mal de gens, ceux qui se revendiquent du mouvement ultra. Mais ils sont aujourd'hui dans un combat qui est un peu suicidaire, qui est un combat pour la liberté absolue. Et on a, nous, qui ne sommes pas dans cette mouvance-là, parfois l'impression que, quels que soient les dommages que ça peut causer au club, ce combat pour la liberté, leur liberté, est plus important que la destinée du club. Et on commence maintenant à avoir un peu ces affrontements d'idées. On commence à voir sortir des débats puants sur les vrais et les pas vrais supporters. J'entendais Alain sur vos antennes hier qui disait qu'il revendiquait, même s'il est en latéral, le droit de considérer comme un amoureux des Verts et un supporter des Verts, même titre que les autres. Je crois qu'il ne faut pas...
T'es d'accord avec ça ?
Ah ben, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'on est tous supporters des Verts. On a juste des différentes façons de mener. Après, attention. Hein,
c'est pas parce que t'as pas un fumigène dans la main que t'es pas un supporter des Verts.
Ouais, non. Bien sûr. Par contre, je veux pas non plus qu'on minimise. Enfin, faut pas oublier quand même que. Parce qu'il faut être juste dans l'histoire. Autant je comprends pas leur combat. Autant il faut bien reconnaître que quand on parle du Chaudron, l'ambiance du Chaudron, la vraie ambiance du Chaudron, c'est quand même les deux copes qui la mettent, que c'est des mecs qui, au-delà d'allumer des fumigènes, font aussi des tifos magnifiques, qui leur prennent un temps de malade, et c'est dommage que pour ce combat perdu d'avance, on commence à voir fleurir des affrontements d'idées entre types de supporters, et puis surtout, je crois que ça mènera à rien, enfin les Magic fans ont tout de suite communiqué sur le huis clos en disant que de toute façon ils continueraient à affirmer leur liberté, donc ça quand on lit entre lignes ça veut dire il y aura des fumis contre Nîmes, donc le huis clos va tomber, donc il y aura un autre match à huis clos, donc c'est vraiment difficile ça, hein. C'est vraiment difficile.
Débat suivant, on va parler de la suite au niveau sportif cette fois pour les Verts. Alors vous le savez, Claude Puel a fait des efforts financiers hein, pour venir à Saint-Étienne. Et en compensation, le club lui a dit « Ok, tu vas gagner moins, mais on te promet une belle prime. En cas de Ligue des Champions, 1 million d'euros. En cas d'Europa League, 500 000. » Sauf que là, Saint-Étienne est 15e. Bon, alors au-delà de cette histoire de prime, qui peut paraître anecdotique, mais enfin, qui existe tout de même, est-ce que vous pensez que Saint-Etienne peut encore jouer l'Europe, le championnat est serré, ou est-ce que, après notamment ce qui s'est passé ce week-end, vous vous dites, bon, les gars, soyons lucides, on oublie, c'est pas pour nous cette année.
Ah, ça va être difficile quand même pour l'AS Saint-Etienne cette année, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup de problèmes sûrs, mais... peut-être encore plus grave en dehors du terrain également, et tout ça fait que les prestations avec quand même un effectif qui est déséquilibré, avec tous ces remous qu'il y a eu depuis le début de la saison, ça va être compliqué. Maintenant, si on revient au terrain, moi je pense qu'il y a une chose qui est importante, et d'ailleurs vous en avez parlé dans l'after la semaine dernière, Gilbert, au niveau de cette interview de Puel.
Oui, Puel qui donne une interview dans Le Monde voilà. Intéressante.
Très intéressante. Moi je pense que les supporters, la direction... ce club de l'AS Saint-Etienne doit se dire une chose et doit en être certain, ils ont un entraîneur qui peut les aider à grandir et à redresser cette situation. Maintenant, ça ne va pas se faire en un mois, ça ne va pas se faire en six mois, peut-être même pas en un an et demi.
Il faut lui laisser le temps.
Et il demandait justement du temps pour les entraîneurs qui arrivent dans un club, et je pense qu'il a toutes les cartes en main, il connaît le football, il a la bonne mentalité, c'est un bosseur. Maintenant, ça va prendre du temps, mais cette saison, Gilbert, si tu me demandes, je pense qu'elle est un peu ratée, il va falloir limiter la casse.
Qu'est-ce que t'en penses, Joss?
Alors déjà, j'ai une info pour toi, Gilbert, parce que tu as posé la question de savoir d'où venait l'expression « peignoir claquette » hier dans l'after.
Ah oui, exact.
Elle vient de Claude Puel, dans une interview à l'équipe. Ah. C'est lui hein, qui a employé ce terme-là. Je t'ai envoyé un tweet d'ailleurs, mais je suis pas sûr que tu l'aies vu. C'est lui qui a employé cette expression, la peignoire claquette. T'en dis long.
Très bien.
Alors moi, je ne crois pas à l'Europe, très clairement. Je pense qu'on a 5% de chance, mais c'est pas le match d'hier qui me fait dire ça. C'est ce qui se passe depuis pas mal de temps.
Entre et puis ce qu'on a faire, dit sur, faire quoi,
sur la qualité de l'effectif. Ouais, mais ça, c'est un autre débat, c'est le pour ouais, faire ouais. quoi en Europe. J'ai vu que Gasset avait dit ça, je trouve que c'est un peu facile aussi pour lui de dire ça maintenant, mais c'est un autre débat. Si c'est pour y faire ce qu'on a fait cette année, je suis d'accord, ça n'a pas d'intérêt, mais on n'est pas obligé de répéter tout le temps les mêmes erreurs non plus, quoi. Voilà, bon. Maintenant, pour moi, la principale raison qui fait qu'on n'y arrivera pas, c'est que l'effectif tel qu'il est aujourd'hui, je parle de l'effectif valide, ne le permet pas. Si on avait pu compter sur un effectif valide avec des joueurs comme Bouanga tout le temps, des joueurs comme Amouma tout le temps, des joueurs comme Saliba tout le temps, des joueurs comme Youssouf tout le temps, parce que maintenant il est blessé, peut-être que j'aurais un avis différent, mais là aujourd'hui j'y crois pas. Et puis après je regarde ce qui se passe autour aussi, vous avez vu ce que Monaco a fait hier, je pense qu'ils vont remonter, Lille va être là, Lyon va remonter, il va y avoir trop de monde devant nous. Voilà, il y aura trop de monde. Donc moi personnellement aujourd'hui, je préfère qu'on soit réaliste là-dessus, mais qu'on se projette tout de suite sur dès maintenant, c'est quoi la réflexion à mener pour que l'année prochaine on puisse travailler sur un projet qui grandisse. Et c'est maintenant qu'il faut se poser les questions. Alors si d'aventure ça tournait super bien, qu'on se mette à faire une série de 5 matchs et victoires, on verra s'il sera toujours temps de se reposer la question. Mais pour moi, l'enjeu de la réflexion à l'heure actuelle, il n'est pas de savoir si on sera en Europe ou pas, il est de savoir quel projet on aura l'année prochaine. Voilà.
Jos Randall, donc du site peuplevert.fr dans l'After Saint-Etienne aujourd'hui. Merci Jos, merci Kevin.
Merci à vous.
On se
merci
retrouve dès la semaine prochaine. Salut.
À bientôt. RMC.
After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.